Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon. On entend le mot de et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles sont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, sur Radio Galère 88.4. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour cette émission de février, Dicotylédonde est encore allée vadrouiller. Cette fois-ci, un peu plus loin que d'habitude, au Liban, dans la vallée de la Beka, à la rencontre de l'équipe de Bouzourna Jouzourna, une ferme-école qui, depuis près de 10 ans, collecte, préserve et distribue des semences paysannes menacées par les guerres, tout en faisant vivre un collectif composé majoritairement de familles syriennes déplacées. Dans de nombreux conflits, les banques de semences sont des cibles systématiques. En Irak, en Syrie, en Afghanistan, en Birmanie et très récemment en Palestine, les lieux de conservation des graines ont été bombardés. Le 1er février, alors que nous montons cette émission, Israël a largué du glyphosate hautement concentré sur les terres du sud Liban. Répandre des herbicides, détruire les récoltes, empêcher l'accès au sol et leurs cultures sont autant d'armes de guerre qui font des terres agricoles un violent champ de bataille. Les déplacements forcés des paysans et paysannes, les bombardements systématiques des banques de semences et les politiques agricoles conventionnelles menacent à la fois la biodiversité, les savoir-faire et la souveraineté alimentaire des peuples. Cette émission est une conversation, une balade dans le jardin et la maison de Bouzourna Jouzourna avec Zoé et Ferdinand, deux des personnes fondatrices de cette initiative. On y parle de décolonisation des semences, de guerre et d'eau de rose, de réseaux de solidarité, de poireaux, d'espoir qui germe et de résistance à semer dans l'adversité. On y évoque aussi les enjeux politiques, sociaux et économiques auxquels font face la ferme et les personnes qui la font vivre, dans un contexte légal, foncier et sécuritaire de plus en plus incertain. C'est donc parti pour une heure à Bouzourna Jouzourna, en arabe, nos graines sont nos racines.
بالعربي تمام بعمل كياس بذور للبيع يعني بجهز بذور مشان بعدين في هون الستاند كل شيء الكوليكشن كل شيء جاهز اي وكمان بعمل اوردر لبيروت وهيك جاي تخافاي six years. Yes. Je m'appelle Faïqa, reine de graines. Yes. Yes.
Ouais, ça c'est un piment syrien. Corne el ghazal, c'est corne de gazelle. Ouais, là il y a de quoi faire.
Par exemple, 10 kilos.
Il y a quoi de faire un million de plants.
Ça représente quoi en mètres linéaires
Pour les courgettes
Pour les concombres.
Bah, parce que chaque espèce c'est différent, donc faut visualiser un peu. Mais... Moi je dirais que là il y a de quoi semer 5000 mètres carrés peut-être, ou 10 000 mètres carrés, je sais pas. Mais là il y a de quoi semer plutôt 10 hectares, je
pense. Ouais.
Oui, mais ça parle surtout d'un réseau. Pour moi, c'est surtout ça parle d'un réseau entre la Palestine, la Syrie, le Liban, la France, l'Irak. Ouais, non, c'est pas du tout comme ça. Enfin,
la règle, je voulais faire un
truc
sur le réel, mais finalement, c'est.
Ils sont mentionnés dedans parce que ça fait partie du projet.
Ouais. Là, regarde, après, si on fait du boulot.
Maison, elle a une construction traditionnelle qu'on retrouve beaucoup au Liban et en Syrie aussi, en briques d'adobe en fait, mélange de terre paille et ensuite couvert d'un enduit aussi terre paille. Et du coup, on l'a construite en 2019 pour avoir une salle commune, salle de travail, salle de réunion, etc. Une salle d'ensachage. Donc en gros, quand les graines elles viennent du jardin, qu'elles ont été nettoyées, qu'elles sont toutes propres, etc., séchées. On les ramène ici. Faïra, qui est responsable des graines depuis, depuis longtemps, 2017. Elle les pèse, elle les rentre dans le système d'inventaire. On le place 15 jours au congélateur pour, au cas où il y ait des insectes, etc. Et ensuite, elles vont rentrer dans la pièce d'après, qui est la chambre des semences. Donc, tu vois, ici, il n'y a pas de fenêtre. Il faut être le plus isolé possible, gérer l'humidité et la température. Et donc voilà, on ramène toute notre production ici. Et donc il y a des choses qui datent depuis notre première année de production de semences 2016 jusqu'à maintenant. On les reproduit. En fait, on a trié les espaces ici. En fait, ça, c'est les petites boîtes, c'est les lots qu'on va nous donner, qu'on reçoit. On les trie ici par espèces. Les différentes variétés, et comme ça, quand arrive la nouvelle saison, on va voir là, ah, on a ces semences de Palestine, qu'il y a tel groupe qui nous a ramené, des semences du Liban, il y a des semences qu'on ramène de banques de semences internationales, qui ont collecté des semences dans les différentes régions du monde dans les années, depuis les années 60-70. Donc on a fait un travail aussi d'aller chercher ces graines-là, pour le Liban, pour la Syrie, pour la Palestine. Surtout. Et donc voilà, on va les essayer. Donc ici, on décide qu'est-ce qu'on va mettre au jardin entre essayer une nouvelle variété qu'on n'a jamais cultivée ou vouloir multiplier ou vouloir faire la sélection parce qu'on sait que cette variété-là, on l'a déjà cultivée, mais elle part un peu en quelque chose d'autre, donc on retravaille dessus. Et il y a aussi deux objectifs. Il y a nourrir notre catalogue, parce qu'on a un catalogue avec 150 variétés. 60 espèces, et il y a la collection, des choses qu'on ne va pas forcément mettre au catalogue, mais qu'on va quand même essayer de préserver, de multiplier, pour différentes raisons. Donc voilà, ça c'est ce lot-là. Donc on les a pris ici au printemps ou à l'automne, selon la saison, on les a cultivés, et ils reviennent après la récolte, et là, elles sont en bas, dans les gros stocks. Donc tout ce qui est en bas, c'est produit par Buzurna, et aussi, maintenant, ce mur-là. Donc voilà, ça c'est le stock, et après on va les mettre en sachet, et du coup ils sont stockés dans la pièce d'à côté quand c'est en sachet prêt pour vente ou distribution, et voilà les quantités quoi. Yes. Voilà, ça c'est des concombres, on a je dirais presque 10 kilos. Avec 10 kilos de semences de concombre, tu peux semer plusieurs hectares. Sur le concombre, t'as un peu l'amertume à sélectionner des fois. Naturellement, il repart vers un peu d'amertume, du coup, faut goûter quand tu fais l'extraction de semences, chaque fruit. que tu peux te dire, c'est que tu récoltes en premier, elles vont avoir un critère de peut-être de précocité. C'est les premiers débuts de la saison. En même temps, en fin de saison, elles vont avoir aussi vécu plus de choses parce qu'on considère que le patrimoine génétique, enfin l'information qui est donnée d'une génération à l'autre, il y a la génétique de base, mais il y a aussi ce qu'a vécu la plante qui nourrit la génétique. L'épigénétique, ils appellent ça, et qui va faire l'adaptation, etc. Donc on aime bien aussi récolter à la fin. Ouais. On dit que c'est bien pour que la plante elle apprenne, quoi. Nous, tout ce qu'on distribue ou qu'on vend, il faut qu'il y ait un test de germination qui a moins de 12 mois. Donc, on a pris la méthodologie de... On a nos, on va dire, nos parrains techniques. C'est le Biogerme, qui est dans la région d'Agen, qui font de la semence paysanne depuis 50 ans. Un super beau catalogue. Et donc, ils nous ont formés. Nous, on a fait... Moi, j'ai fait un stage chez eux, Lara aussi. Et on est en lien depuis 8-10 ans maintenant. Qui nous ont tout appris pour faire les tests de germination, pour la conservation, pour la sélection au jardin, pour plein de choses. Du coup, on utilise la même méthode que eux, qui est qu'un test, on lui donne une validité d'un an, et tous les ans, il faut refaire le test. Donc après, si ta semence de tomates de 2018, ce qui est le cas pour les tomates 2018, on les teste, elle est encore à 95%, bah, on va continuer à la vendre. C'est la même qualité qu'une semence de 2025. Voilà, après, quand le test, la germination baisse, nous, on continue à le semer pour nous. On augmente la densité de semis et on essaye de ne pas jeter. Après, nous, en tant que sélectionneur multiplicateur, on aime bien repartir des nouveaux lots pour qu'il y ait une sorte d'adaptation permanente, quoi. Et voilà, une semence de concombre, ça fait 6 ans qu'elle est reproduite. On aime bien continuer à reproduire les nouveaux lots pour qu'elle s'adapte au changement climatique, etc.
Ouais, tu avais dit un truc, je me souviens, tous les ans dans les champs.
Ouais. Ça. Ouais. La meilleure conservation, c'est d'être cultivé et reproduit, quoi. Plutôt que... Parce que donc, voilà, nous, on fait la conservation de semences, et t'as le travail que font les institutions de conservation de semences aussi. Mais eux, la logique, et puis ils ont tellement de lots, leur logique, c'est les congélations, quoi. Et du coup, ils reproduisent que tous les 20 ans. Donc à chaque fois, t'as des gaps d'adaptation. Et puis, t'as une dépendance aussi à ces institutions. Et voilà. Nous, on préfère se dire que plus c'est multiplié, plus c'est dans les champs, plus mieux c'est conservé. Ouais, c'est un autre paradigme, une autre manière de voir le truc. Toute semence de Méditerranée, on considère que elles peuvent être adaptées. Donc on essaye, les italiennes, sud de la France, le Maroc, l'Algérie, etc. Après, des fois, on va dire, il y a plusieurs objectifs dans le catalogue de Buzuruna. Dans notre travail, c'est le piment, en fait, c'est sorti, c'est de semence de piment. Ça attaque un peu. Il y a de... Retrouver des variétés très anciennes des maisons de semences, là, des banques de semences. Donc faire de la conservation un peu de, on va dire, patrimoine, je ne sais pas comment on dit ça. Il y a de retrouver des variétés locales que les paysans utilisent encore, qui ont aussi de la demande. Parce que peut-être les semences anciennes, elles ne vont pas avoir autant de demande auprès de la population. Donc les trucs qui sont charabi, qui sont baladi, qui sont demandés. Et puis il y a aussi du renouveau. Donc, trouver des variétés qui ne sont pas trop connues, mais qui peuvent avoir l'intérêt pour une partie de la population. Et toujours faire des essais. On ne va pas se bloquer dans un truc. Ah, il faut du local, baladi, machin uniquement. Mais plutôt, on pense l'histoire du végétal et des cultures et des humains. Ça a été un brassage permanent. Et du coup, on est pour cette idée aussi de ramener des semences d'autres régions en faisant attention aux maladies, aux virus, etc. Mais de faire du renouveau, quoi. Et tu vois, par exemple, le poireau, comme on le connaît en Europe, le fenouil, etc. C'est pas très connu ici. Mais en fait, il y a plein de gens qui aiment bien et qu'il y a une demande en ville, on va dire. On fait du chou chinois, on fait du kimchi. Il y a plein de gens qui adorent le kimchi au Liban. Tu sais pas, ils ne sont pas obligés de manger que du McDo et des za'atar. Du coup, alors on mélange un peu ces différents objectifs-là. Mais depuis quelques années, on s'est reconcentré sur aussi sur les semences des banques de semences là. Et puis parce qu'on petit à petit notre réseau il s'est développé au-delà des frontières libanaises, en Syrie, en Irak, en Palestine, en Égypte. Il y a des gens qui sont venus ici. Et du coup, on a fait des commandes aux banques de semences pour l'Irak et l'Égypte. Et il y a un groupe en France qui travaille là-dessus parce qu'il faut faire la demande, les recevoir, puis les multiplier une première année en France parce qu'en fait, les lots qu'ils te donnent, ils sont minuscules. Des fois, ils ne germent pas. C'est quand même pas mal de travail. Du coup, les premières étapes sont faites en France de cette multiplication. Et une fois qu'elles sont bien, elles sont envoyées dans les pays où il y a ces assos qui ont demandé. Et du coup, ils ont appelé ça les semences décoloniales dans l'idée aussi de... Un peu comme c'est les statuettes qui ont été prises dans les musées des pays occidentaux à l'époque des colonies et qu'ils ont gardées et qu'en ce moment, ils essaient de renvoyer dans les pays d'origine. Un peu dans cette même idée quoi, de se réapproprier. Voilà. C'est chouette.
Acheteurs enfin...
Ici, les acheteurs, bah, du coup, on a le catalogue qu'on essaye de développer auprès des paysans, des agriculteurs, des néo-ruraux. Enfin, tu as une communauté un petit peu agroécologique qui se développe au Liban et qui grossit. Du coup, eux, ils vont prendre parce que c'est des semences bio, etc. Et après, il y a un petit peu d'agriculteurs traditionnels, Assad Nayel, dans les communautés paysannes où nous, on est présents, qui nous prennent des semences, qui viennent ici directement. Et après, aussi les ONG ou les associations de solidarité qui vont faire des distributions, qui ont des projets de soutien, de soutien à l'agroécologie, et donc qui vont prendre chez nous. Il y a Mada qui est une chouette asso dans le Haqqar depuis plus de 10 ans. Ils soutiennent l'agroécologie. Amel, dans le sud. Fairtrade Lebanon ou Sols, etc. Des fois, Solidarité, ils ont pris de chez nous. Et nous-mêmes aussi, on fait des actions de solidarité. Et on organise nous-mêmes des distributions ou de l'accompagnement d'agriculteurs depuis 2017. Notamment à Riyam, à Ersal. Voilà, du coup, nous, on fait aussi. On collecte des fois des financements et comme ça, on peut distribuer. Ouais. Et là, on a essayé de beaucoup être présents. Enfin, comme on était depuis longtemps en contact avec des gens à Riyam et vers Nabatieh, vers Kafalkila, qui sont des zones qui ont subi la guerre des deux dernières années et toujours aujourd'hui. Et on a des amis qui vivent là-bas. Du coup, on a pu faire pas mal d'échanges, leur envoyer pas mal de graines. Et vraiment, ils se battent pour accéder à leurs champs. Les paysans, ils sont dans les champs et il y a toujours un drone qui vient au-dessus de ta tête. Et tout, quand tu es en train de préparer ton sol, tu as des drones au-dessus de toi. Ils envoient des bombes assourdissantes où ils foutent le feu à des parcelles. Donc, c'est vraiment un acte de résistance dans le sud de continuer à cultiver ces terres. Quoi. Ils sont impressionnants. Ouais. Charlotte, elle y était il y a 2 jours là, et à Kafalkila, elle a pris des photos des champs de blé qu'ils ont semés. Ça fait plaisir de voir la nature qui repousse. Ouais. Et ils ne savent pas s'ils vont pouvoir récolter. Quoi.
pas.
Mmh. Ouais, sinon, on va fermer boutique. Hein. Ouais. Yes, vous voulez aller au jardin ou... Je vais prendre un chat.
Ouais.
Ouais.
Mais il y a un peu de réveil là-dessus. Mais parce que je suis pas moi, je viens de 50 ppt et ça monte jusqu'à 600. J'utilisais une taille personnalisée.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Comment vous êtes arrivé ici, comment ça s'est fait, le début de ce projet?
Sur ce terrain-là,
bah, le début du projet.
Début du projet, et ça remonte. Hein. Mais on était d'abord à un autre terrain, à Tanaïel. Zoé, on a rencontré Walid et Salem et d'autres Syriens qui étaient réfugiés au Liban. On était là pour 6 mois et puis on a rencontré tout plein de monde. Et puis il y a eu le thème des semences paysannes qui semblait hyper important et hyper fort, autant pour les Libanais qui, depuis la fin de la guerre civile, ils sont dans un modèle de développement agricole hyper capitaliste et productiviste. Et du coup, les variétés ont disparu pendant 30 ans de guerre, puis après ça. Et autant pour les Syriens qui, eux, à ce moment-là, étaient en pleine... révolution qui est devenue une grosse guerre et que tous les paysans se retrouvaient déplacés, arrachés à leurs terres et qui étaient en perte de leurs semences. Et du coup, il y avait déjà plusieurs initiatives là-dessus et donc on a rejoint ça. Et on s'est dit que ça faisait du sens et ça nous plaisait de continuer là-dessus. Puis du coup, Walid et Salem, ils ont quitté leur taf dans la grosse ferme. On a trouvé un premier financement qui nous a permis de louer notre propre terrain ici. On a organisé des rencontres qui s'appelaient Aïd El Bouzour, la fête des semences. Et il y a eu plein de gens qui sont venus. On était plus de 100. Et voilà. On a senti qu'on a fait partie de cet engouement-là. Quoi. Et du coup, on s'est installé. On a créé Bouzour Lona. Nous, on est retourné se former sur les semences. Le nom a été choisi aussi à ce moment-là. Bouzourna Jouzourna, qui veut dire nos graines sont nos racines. Et voilà. Salem, qui vient de Damas, il a ramené tout plein d'arbres fruitiers de variétés greffées, que c'est son travail depuis qu'il est petit. Donc là, toutes les allées d'arbres, tu vois, c'est des fruitiers que Salem nous a ramenés d'un peu partout. Et genre pour les pruniers, il y a 5 variétés différentes. Pour les abricotiers, il y en a 4 différentes. Il nous a ramené des abricots de Damas, une variété très ancienne, qui est cultivée tout autour. Donc on fait plein de confitures maintenant. Des amandiers, des pommiers, il y a tout. Et après, les légumes, voilà, donc il y a 15 dounoums, ça fait 1,5 hectare de culture, et 1,5 hectare pour les bâtiments, la ferme école, un peu d'élevage, les serres, etc. Et l'espace pour les enfants, avec le cirque. Parce que c'est un lieu un peu refuge aussi, où les gens viennent se poser, échanger sur plein de choses, sur des luttes ou sur la vie ou récolter. Et du coup, il y a aussi une initiative de cirque des amis de Shtura qui avait un chapiteau et qui cherchait un endroit pour le poser. Depuis 5 ans maintenant, il y est. Et ils font un carnaval tous les printemps et des activités ici. C'est trop chouette. Pour les enfants, c'est trop bien. Nous, on a plein d'enfants dans le collectif et dans le voisinage. Pour les familles du collectif, on arrive presque à 40, plus de 40 enfants.
Parce qu'il y a beaucoup de monde du coup dans ce collectif.
Bah, on est 20 adultes, une dizaine de familles dans ces 20 adultes. Et voilà, il y a des familles qui ont 6-7 enfants facilement. Du coup, il y a eu plein de moments où il n'y avait pas d'école. entre le problème pour les Syriens de trouver des écoles, le corona, les crises multiples qu'on a traversées ces 5 dernières années où tout a été fermé tellement souvent. Et là encore cette année, depuis que la Syrie, il y a eu la chute du régime et la Syrie s'est rouverte, le Liban a décidé d'arrêter les programmes d'accompagnement, enfin les programmes de scolarisation. Du coup, tous les enfants de la ferme, là, ils sont déscolarisés encore une fois cette année. Ouais, c'est pas évident pour la communauté syrienne. Pour les Libanais non plus, c'est pas évident, mais pour les Syriens aussi, plein comment dire, ouais, de racisme ou d'exclusion, quoi. Voilà.
Du coup, le collectif a grandi jusqu'à être 20 adultes,
ouais.
Quoi.
Ça
et
fait...
tout le monde vit...
autour de la ferme. Il n'y a qu'une famille. Bah, maintenant, il n'y a même plus, puisque la famille qui vit là, c'est les fondateurs de l'asso, ils sont rentrés à Alep l'année dernière. Et c'était une grande fête. Mais voilà, ils ont laissé un grand vide aussi ici.
Économiquement, la ferme, elle fait vivre tout le monde, enfin,
ouais.
Tout ce collectif, quoi.
Ouais. Et puis on a besoin d'aide, hein, parce qu'il y a le terrain ici, puis il y a aussi 20 hectares à MIC de grande culture. Donc, ouais, ça fait vivre pas mal de monde. Mais après, c'est pas que la production agricole qui nous fait gagner notre vie, quoi. C'est un mélange entre la vente, qui doit représenter genre un tiers des ressources.
La vente,
la
graines,
vente,
transfo,
voilà.
Tout confondu. Ok.
Plan de légumes et plan d'aromatiques. Et ouais. Et après, on fait un petit peu de consultance pour des projets agroécologiques, pour des ONG ou pour des. On donne des formations, on accompagne des petits projets. Et on a des financements. La formation, ouais, ça, c'est un truc important de notre travail. Il y a une classe, il y a une pièce pour accueillir du monde. Et des fois aussi, on a des financements directs de projets qu'on a postulés. Donc il y a quelques financements structurels et quelques-uns qui sont liés avec des projets, des activités. Donc voilà. Et après, il y a eu la guerre qui est arrivée. Et dans la guerre, il y a eu pas mal quand même de solidarité. Tous nos partenaires, depuis longtemps, ils nous ont rappelé, ils nous ont dit, voilà, comment, c'est quoi la situation et tout. Et du coup, ça nous a aidé à retrouver, là, depuis un an, un peu de sous. Et on a pu être hyper actifs. On a distribué beaucoup d'aliments, de nos productions, de nos 20 hectares. On avait beaucoup de petits pois, de lentilles, de pois chiches, de fèves, de boulgour. Donc, on a pu être hyper actifs en octobre, novembre. Et depuis ça, on essaye. Enfin, on a eu pas mal d'aides pour continuer à distribuer des graines et tout. Donc en ce moment, ça va. À voir ce que ça va donner. Mais on aimerait aussi professionnaliser plus les semences. Ouais. Enfin, tu peux pas quitter entièrement les ONG et tout, le financement de développement, parce que quand même, ça aide. Tout ce qui est consultance, etc., formation, c'est quand même beaucoup mieux payé que les produits agricoles. Produits agricoles, comme partout, c'est les prix sont au plus bas, quoi. De réseau qu'on fait à l'échelle nationale, à l'échelle de la loi, là, qu'ils essayent de faire passer, donc de la lutte pour les droits des paysans, la souveraineté alimentaire. Avec la Syrie, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'espoir là-bas. Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir et d'énergie positive. Les gens, ils sont trop contents de rentrer. Ils sont hyper motivés. Le pays s'ouvre. Donc après. Le gouvernement, il a l'air d'être dans une dynamique ultra-libérale, capitaliste, donc ça va pas être évident, mais en tout cas, c'est ouvert, tu peux faire des choses, quoi. Du coup, il y a plein de dynamiques positives. Je sens que le projet, il parle à plein de communautés différentes, quoi. Il parle, je veux dire, aux gens de la ville qui ont envie de bien manger, aux gens de la campagne qui aussi se sentent pollués par les pesticides, aux agriculteurs qui cherchent des alternatives parce qu'ils ne s'en sortent pas économiquement. Ils parlent aux Syriens parce qu'ils trouvent ça... Beaucoup des Syriens qui sont réfugiés ici, ils étaient agriculteurs avant. Ils viennent de milieux ruraux, donc ils trouvent ça super... Aussi, c'est un lieu qui fait du bien, quoi. Ça parle un peu à tout le monde. Ça parle aussi même aux gens d'autres pays, que ce soit du monde arabe. Il y a plein de gens d'Assos, Tunisie, qui sont venus d'Égypte, etc. Ça leur parle. Autant aux gens de l'Occident. Du coup, je sens que c'est une énergie positive que les gens, quand ils repartent d'ici, quand ils entendent parler d'ici, et que ça gagnerait à être plus connu, et qu'on pourrait écouler plus. On pourrait être dans plus de magasins agricoles aussi. Je sens que les Libanais, ça les intéresse d'avoir des variétés locales. Au Liban, encore la culture du jardin familial. Il y a plein de gens qui vivent à moitié à la ville, à moitié à la campagne, et qui ont un jardin derrière leur maison. Et qui prennent le temps de se faire un beau jardin, quoi. C'est beaucoup plus qu'en France ou qu'ailleurs. Il y a pas mal de monde qui font du jardinage. Du coup, ça les intéresse d'avoir nos semences. Même nos voisins qui sont agriculteurs, quand ils font des champs, ils prennent pas nos graines, ils prennent des hybrides. Mais quand pour leur jardin, ils viennent chez nous. Mais et ils sentent la différence. Ça a bien pris. Mais tu vois la réaction là sur la loi semences. Qui est sorti, le travail d'écriture de la loi au Parlement, là, qui depuis 6 mois, 8 mois, comment il y a eu une réaction, il y a eu des articles juridiques qui sont sortis, il y a eu plein d'événements, des gens qui se sont opposés, quoi, et qui se sont mis en lien. Et je pense que c'est résultat aussi du travail des 10 dernières années.
Ouais. Parce que cette loi, c'est une loi qui va passer.
Ouais, qui est en cours d'écriture. Ils ont écrit un premier brouillon, draft, là, et en fait, c'était une loi à copier-coller des lois européennes, en gros, qui rentre dans le système UPOV. Et UPOV, c'est cette histoire de catalogue, les officiels avec des noms de variétés qui ont été obtenus par des compagnies privées. Donc, en gros, tu n'as pas le droit de vendre des semences, ou même en tant que paysan en France, tu n'avais pas le droit d'acheter des semences qui ne sont pas enregistrées dans le catalogue UPOV. Et pour être dans le catalogue UPOV, il faut qu'il y ait un obtenteur, une compagnie qui est, je ne sais pas combien ça coûte, entre 5 et 20 000 euros, selon les... Peut-être j'ai une bêtise sur les prix exacts, mais qui ait fait cette démarche d'obtenir et de valider la variété. Et pour la valider, elle passe des tests d'homogénéité. Donc il faut que toutes les plantes soient hyper proches de stabilité. Et de performance agronomique pour valider. Et en général, les semences paysannes, de manière générale, passent pas les tests, ou difficilement. Après, en France, il y a eu une petite adaptation il y a quelques années où ils ont créé un catalogue secondaire qu'ils appellent ça les semences non performantes ou en gros les semences nulles. Mais comme ils ont vu qu'il y avait plein de semences paysannes, enfin qu'il y avait tout un truc sur les semences paysannes, ils ont... Ça s'est un petit peu, c'est un peu évolué. Mais donc, en gros, le secteur dans l'Occident de la semence pousse les pays du tiers-monde, entre guillemets, à adopter une loi semence et rentrer dans le système UPOV. Et sur les je ne sais pas combien de pays il y a dans le monde, il y a la moitié qui est passée. Et petit à petit, les autres pays, ils essayent de les faire passer dedans, quoi. Et du coup, ça nous rendrait illégal. S'ils rentrent dans le système UPOV, le travail de Bouzourna serait interdit. On devrait avoir que des semences qui auraient passé, que seraient obtenues, passées par le ministère de l'Agriculture, passées par les instituts de recherche, qui auraient fait des tests, etc. Et en fait, ça ne correspond pas à la semence paysanne, parce que la semence paysanne, elle est dynamique. Elle change d'une vallée à l'autre, elle change d'une année à l'autre. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, hein, le blé salamouni que tu récupères dans le Hakkar, ce n'est pas le blé salamouni que tu as dans, je sais pas moi, le chouf. C'est pas exactement les mêmes, quoi, parce que plein de choses, plein de raisons. Du coup, ça correspond pas à leur idée d'un blé salamouni qui est 1, 2, 3, 4 partout et qui a une seule compagnie ou 2, 3 compagnies qui le proposent. Et ouais, voilà, c'est pas adapté, quoi. Donc pour l'instant, là, depuis 15 jours, ils ont dit qu'ils gelaient la loi, qu'ils allaient repartir en pourparler avec les acteurs de la filière, je sais pas quoi. Donc à voir.
Du coup, là, entre cette loi, le bail du terrain, il y a quand même pas mal d'incertitudes ou des gros enjeux quoi, qui se posent.
Ouais. Ouais, c'est souvent le cas. C'est clair. Bien choisir ton endroit. Bah, nous, on était hyper contents d'avoir un contrat de 10 ans. Au Liban, c'est hyper dur d'avoir 10 ans. Et du coup, c'est sûr qu'au bout de 10 ans, tu perds quelque chose de gros, quoi.
Ouais.
Non, mais peut-être ça va se renouveler. Hein, non. Ouais. Et voilà, pour l'instant, on est là. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais ouais, il y a des bons défis. Mais au moins, il y a toujours des drones qui passent au-dessus de nos têtes. Là, c'est un bruit de moteur, mais souvent, c'est un bruit un peu comme ça que tu entends. Hein. Hein, quasiment tous les jours. Donc ça te met une autre ambiance au jardin. Ouais, mais bon, ce qui est très bizarre avec cette guerre, c'est que enfin, tu te sens pas, ils vont pas te viser, enfin, ils visent une partie de la société, une partie de la population, et c'est hyper malsain. Mais voilà, quand tu es à Sanaïel, tu sais qu'a priori, il va rien se passer, quoi. Et tu sais qu'à côté de toi, un village chiite, pas loin, eux, bah, ou là, à 20 km au nord, ils se prennent une semaine sur deux, ils se font encore bombarder aujourd'hui. Ouais. C'est très bizarre. Du coup, la moitié des Libanais ont repris leur vie, entre guillemets. Et l'autre moitié, ils sont toujours. Ouais. Et Israël, tu sens qu'en ces dernières années, ils ont vraiment cette stratégie de non-paix, de te garder en fait, dans un état de demi-guerre, quoi, pour avoir le droit de faire ce qu'ils veulent aussi, il n'y a plus de limite, quoi. Et donc ça, c'est hyper dur pour les gens, parce que il y a plein de Libanais qui ont quitté le pays, parce qu'ils ne pouvaient plus mettre leur gamin à l'école, ou pas vivre des traumas, tu vois. Et en fait, quand est-ce que ça y est, c'est redevenu sécure? Quand est-ce que tu sens que tu peux te réinvestir aussi? Ou tu vois, si tu veux faire une activité professionnelle, t'es tout le temps dans une insécurité. À changer aussi. Là, par exemple, les poireaux, on s'y est pris à 7 fois pour les replanter.
Mais ils sont fat, hein.
Ouais, ceux qui ont survécu, ils sont pas mal. Mais normalement, c'était de là aux arbres. Et là, on a planté des oignons parce que. Je sais pas, au bout de 2-3 semaines, ils chutent. Les plants, quand ils sont encore fragiles, et il y en avait beaucoup qui récupéraient.
2-3 semaines?
Ouais. On faisait les plants en serre, quoi. Après, on les descendait là. Mais il y a aussi la chaleur de l'été. Il y a aussi qu'on a. Il y a pas mal d'insectes qui bouffent les plants. C'est pas évident. Du coup là, on va garder à la semence là cette planche là.
On dirait du bleu, non? Du bleu.
Ouais, il est bleu. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Les poireaux, c'est pas des variétés locales parce qu'il y en a
Ok.
pas tellement. Là, il y a du céleri branche, il y a du céleri rave. Ça, c'est des épinards qu'on a sortis des banques de semences. C'est un épinard d'origine syrienne qu'on a récupéré en Allemagne. Qui est,
Parce que la graine, elle était, la semence, elle était dans une banque, en Allemagne.
ouais. Ils ont un petit goût acidulé. Ils sont fins. Tu sais, souvent, tu as les épinards géants là qui font des immenses feuilles. Donc ça, non, c'était une bonne variété sortie des banques de semences. Qui est repartie en Syrie aussi et qui marche bien.
Du coup, vous contactez la banque de semences en disant on aimerait bien cet épinard syrien. On sait que vous l'avez. Comment vous...
En fait, c'est libre d'accès sur Internet, les listes de ce qu'ils ont comme variété. Et tu as les origines et les dates de collecte.
Ok.
Mais pour pouvoir y accéder, il faut être un institut de recherche ou une université ou une autre banque de semences. Bon, nous, ici, on n'est pas considéré comme une banque de semences. Donc, c'est nos contacts en France avec, je ne sais plus si c'est un institut de recherche ou qui exactement, qui fait la demande. Et il t'envoie des petits échantillons.
C'est très bon en tout cas.
Là, il y a les navets, les carottes, le rachad, le cresson, kezbara, la coriandre, le radis de Daraya, de Damas, la roquette. Il y a un persil, c'est un petit peu du mal. Peut-être on a ramené du compost, mais qui n'était pas fini de composter. Il y a eu plein de semences, d'herbes sauvages qui sont.
Et ce que vous...
Et là, regarde notre planche de brocoli semences.
Waouh.
Yes. Commence à fleurir. En fait, les brocolis, choux paumés, choux raves, choux kale, etc. Tous les choux se croisent. Donc tu peux pas les laisser fleurir en même temps. Sinon, ça va. L'année d'après, tu auras un truc bizarre. Avec les choux-fleurs, avec les. Comment on appelle ça? Ouais, les choux de Bruxelles et les choux raves, enfin tout ça. Et du coup, on fait une grosse planche pour essayer de faire un max de quantité et que ça nous dure 7 ans. Dans 1 an les brocolis, 1 an les choux-fleurs, 1 an les choux raves, 1 an les choux paumés. Alors comme il y a 3-4 variétés de choux kale par exemple, il faut 4 années.
Même s'ils fleurissent à des moments différents.
Bah tu peux essayer ouais, de gérer ça. Mais par exemple le brocoli il fleurit très tôt. Donc potentiellement on pourrait faire les brocolis et qu'ils arrêtent de fleurir avant que les autres fleurissent. Donc des fois on est à la chasse aux premières fleurs là, du choux kale pour aller les arracher avant que celle-là n'ait fini. Après des fois aussi on voile. Par exemple là le Mizuna on va le voiler. Comme ça on pourra faire le. Parce que le Mizuna, lui, c'est un autre espèce de chou qui croise avec les navets, qui sont en fait des choux, et les choux chinois. On va savoir pourquoi. Et c'est Brassica oleacera et Brassica je sais plus quoi l'autre, Napa ou quoi. Donc il y a un peu, en semence, tu dois connaître un peu surtout le truc de la pollinisation.
Ouais.
Pour les espèces allogames, ces espèces qui se croisent. Il faut gérer ça pour stabiliser la variété. Par exemple aussi les blettes. Les blettes, ça se croise avec les betteraves. Et puis tu as les cartes blanches, les cartes
Une couleur.
que tu avais vues de couleur, ouais. Pour les cartes de couleur, on doit faire une année sur notre champ les jaunes, uniquement. Un autre endroit les rouges, un autre endroit les oranges, les roses. Là, tout ça, ça se croise. Et si tu laisses se croiser, il y a des couleurs qui vont prendre le dessus sur les autres. Il y a des couleurs comme un peu avec les yeux pour nous, tu vois, qui vont du coup disparaître. Donc si tu veux garder un max de diversité et couleurs, tu vas faire tout à part. Et là derrière, ils ont fait un verger. On a un verger avec des plantes aromatiques et médicinales. avec une partie de l'équipe qui s'intéresse particulièrement à ça. Ils font des eaux florales. Il y a Zoé qui a beaucoup travaillé sur les eaux florales. Et... Il y a Fodda aussi, qui est reparti avec Walid en Syrie.
Okay.
C'est beaucoup plus de ça et qui va... Là, qui va essayer de faire une semence de plantes aromatiques, une ferme de semences de... Ah. Je vais essayer de faire une ferme de plantes aromatiques médicinales là-bas à Alep.
Il y a une partie en plantes locales et...
Ouais. Le Zaatar, le Chir, après la lavande, le romarin, la sauge, etc. Les classiques. L'artémisia. La mycaphrine.
Faire des eaux, ça demande un alambic.
Ouais. Mais ici, on a un petit alambic, cette taille-là, qui doit faire, je sais pas moi, 15 litres, 10 litres, 15 litres, et un plus grand, 60 litres, je crois. C'est cette taille-là. Il est là-bas. Mouchka!
Merci, je sais que ça se voit pas, mais ça va partir en graine.
Tiens, Chamousse! En fait, tu sais ce qui est planté en aromatique, Zoé?
Là, il y a la sauge, le petit zaatar. Le zaatar,
là, il y a... Là,
ça, c'est un autre zaatar.
La menthe. Ouais, ah. C'est de la menthe. Et là, il y a du thym. Ça, c'est du thym. Là-bas, c'est des gueules de loup et une meufrier. Il y a du mille-perfis aussi là, là. Ça, c'est du
mille-perfis. وساعد يشرع السلاح قصتنا الحصاد والسهر القمح والرياح والرماح فساعد يستنبت السهر وساعد يشرع السلاح قصتنا الأبطال والزيتون وقرية تضحك للسماء تحرس خط الشوك والفداء أطفالها في الشمس يلعبون في المجد يلعبون بالحب كالجنون ويضحكون تهدئي رياح وفي المدى رجال يا لهم الرجال في ليلة الحق هم الصباح قصتنا الحصاد والسهر الخمح والرياح والرماء فساعد يستنبت الثمر وساعد يشرع السلاح فساعد يستنبت الثمر وساعد يشرع السلاح فساعد يستنبت الثمر
Et ça, c'est aussi pour les semences ?
Ouais. Bah, les semences, les tisanes, les transfos. On a une copine qui fait des savons, des cosmétiques et tout. Et ça, je pense que c'est l'hysope.
Mmh. Enfin, un peu des tisanes, ouais. Aussi. Et des hydrolats.
De l'eau de lavande, de l'eau d'Achille et millefeuilles, l'eau de romarin, l'eau de sauge et l'eau de rose.
Les rosiers de Salem ?
Ouais, ils sont de l'autre côté là-bas.
C'est des bouturés, j'ai pas réussi.
Mais c'est dur en France, hein. Moi j'en ai rapporté beaucoup et. Je sais pas pourquoi ça prend pas. Je pense qu'elles ont vraiment besoin de beaucoup, beaucoup de soleil. Mmh.
Peut-être à Marseille, ça prendrait, mais ça, c'est de la clinique feuille. Mm. Après, tu as des gros buissons de romarin, de lavande, et puis ça, c'est les rosiers.
Qui viennent de Syrie, du coup.
Ouais, les sultaniers, qui viennent de... d'un copain qui a fondé aussi l'assaut et qui s'appelle Salem, et c'est vraiment lui, c'est son business, quoi. Il fait de l'eau de rose. Mm. Et de la confiture de rose, du sirop de rose. Et elle fleurit 8 mois par an.
Waouh!
Énorme fleur, mais vraiment fuchsia, quoi, trop belle, qui sent super bon. Et c'est celle qui est utilisée ici pour faire l'eau de rose. Parce que la rose de Damas, elle fleurit 1 mois par an. Et c'est plus un gros arbre, enfin, un gros buisson, quoi. Et elle est plus délicate, elle est plus fine, elle est blanche. Celle-là, c'est vraiment, elle est trop belle.
Flashy.
Ouais, elle est flashy, ouais. Et elle sent, c'est presque indécent, quoi. Elle sent vraiment fort.
Absolument.
Ouais. Elle est moins délicate que la rose de Damas. Mais moi, je l'adore.
Et du coup, au sein du collectif, il y a des gens qui ont aussi leur propre projet, leur propre...
Salem, il a son... Ouais, depuis... Ouais. Il l'a... Quand on l'a rencontré... En fait, ils avaient tous déjà leur projet avant d'arriver ici, avant de partir de Syrie. Mais Salem, on l'a rencontré, il était encore en camp de réfugiés. Et il a, je pense, peut-être 2 ans après les débuts, il a réussi à se construire une petite maison en dur. On l'a un peu aidé, enfin, l'assaut l'a aidé. Et puis, avec un terrain, il est chez quelqu'un, en fait, qui lui prête un terrain. Il ne sera jamais proprio. Mais, et là, il a grandi chaque année, il a grandi son terrain. Et lui, il a, je pense, il a bien 1 hectare entier de juste de roses.
Waouh, OK.
Ouais. Mais après, il mélange, il fait un peu... à la Salem, quoi. Il y a un peu d'aubergine au milieu. Il a combien de surface maintenant, Salem, juste de roses?
Je sais pas, je pense 1 hectare.
Hein. 1 hectare, ouais. Et de topinambour, parce que ça, c'est son nouveau truc, le topinambour.
Il a plus qu'un hectare maintenant.
C'est vrai.
Ouais, c'est ça, il a un peu plus. Ouais, de roses.
Il a plus qu'un hectare.
Ouais. Et là, il vient de, je pense qu'il y a 2 ans, il vient de récupérer juste adjacent, quoi, attenant. Il a une super grande surface et là, il fait du topinambour pour des pickles.
Ok.
Donc là, c'est son truc à lui. Et en fait, il ramasse tous les matins. Il ramasse, mais des sacs entiers, quoi. Il peut remplir des camions juste de pétales. Pas tous les matins, mais tu as vraiment la saison. Mais sur 8 mois, il peut ramasser. Et il l'amène à une usine. Et eux, ils transforment. Ils font le packaging, les étiquettes et tout ça. Et ils vendent, ils exportent.
Okay.
Ils exportent pour, je pense, pour l'Arabie Saoudite. Mais ouais, du coup, Salem, il a son projet. Après, tout ça, ça a mis un peu du temps qu'il s'installe, qu'il refasse, tu vois, qu'il crée son un peu son business à lui. Mais
Et il fait partie de l'asso, par ailleurs.
Ouais, c'est un des fondateurs, un des formateurs aussi. Et puis, c'est celui qui s'occupe beaucoup des purins ici, toute la rotation, le traitement des maladies et tout ça. Et puis, il fait aussi tout ce qui est bouture, greffe. C'est lui qui a planté toutes les arbres. En fait, en Syrie, il avait une immense pépinière. À côté de Damas, avec et toute sa famille, ils sont spécialisés dans ce qui est pépinière d'arbres, de fleurs. Et donc, quand il a fui, il est venu avec toutes ses boutures de différents types de pommiers et tout ça. Donc, c'est lui qui a tout planté ici. Donc, chaque arbre, c'est une espèce différente, une variété de pommes différentes, une variété de tout. C'est lui qui a fait les greffes et tout ça. Et du coup, là, c'est trop bien qu'il ait monté son petit projet à côté de la ferme, quoi. Comme ça, il n'est pas... Tu vois aussi, il se protège. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver à la ferme. Si ça disparaît, c'est bien qu'il ait son truc. Mais le côté usine exportatrice, c'est un peu nouveau. Mais du coup, ça lui garantit des bonnes entrées, quoi, d'argent dans l'année. Et puis après, il y avait des personnes, une famille qui habitait ici, qui font partie des fondateurs. Et eux, ils n'avaient pas un gros projet, mais ils avaient des moutons qui étaient sur la ferme, mais c'était leur projet à eux.
Ok.
Donc pareil, ils ont pu rentrer en Syrie parce qu'ils ont réussi à vendre leurs moutons au fur et à mesure. Ils ont fait des économies, tu vois. En fait, ça rapporte pas mal de sous.
Un mouton.
Ouais. Mmh. Ouais, puis quand t'as ton petit cheptel, et puis en fait, t'en as... plus en plus, et au fil des années, ils ont réussi à mettre des sous de côté. Ils ont pu reconstruire toute leur maison chez eux, dans leur village en Syrie. Et là, ils ont pu rentrer. Ils créent un petit projet aussi là-bas. Et elle fait pépinière de fleurs et pépinière d'aromatiques et de médicinales aussi.
Et elle, elle veut aussi vendre, enfin, elle est vraiment, elle veut être floricultrice, vendre des bouquets de fleurs pour les, genre la Saint-Valentin, les mariages. C'est vraiment son truc. Donc, ouais, c'est quand même chouette d'avoir des plumes. Bah non, malheureusement.
Moi, j'en ai un dans mon manteau, mais il va revenir.
Parce que la ferme, ça paye pas trop, tu vois. C'est pas avec ça que tu vas faire beaucoup d'économies pour reconstruire chez toi. Hein.
Ouais. Mais en fait, on...
Chouchou, t'as un couteau ?
Merci à Zoé, à Ferdinand, Faïka, Lara et Fouad pour l'accueil et la générosité. Merci à Yann d'avoir accompagné cette aventure et à Léna et Abbas de l'avoir rendu possible. Dicotylé d'ondes, c'est fini pour aujourd'hui, mais c'est comme d'habitude à l'écoute sur le site de Radio Galère. Vous pouvez aussi toujours nous écrire à l'adresse dicoty@ethic.com, dicoty@ethic.com, nous faire part de vos retours ou de vos idées, ou parler de nous autour de vous. À très bientôt pour le 15e épisode.
Dicotylé d'ondes, c'est tous les 4e mardis du mois en ligne ou sur 88.4.